Radio Foot International. Cannes Total. Égypte 2019. Annie Gasnier.
Bienvenue dans le studio de Radio Foot International sur RFI. Vous êtes là pour nous écouter dans vos oreilles. Et pour ceux qui en ont envie, et je suis sûre qu'ils sont très nombreux, vous pouvez nous regarder grâce à Facebook Live, nous regarder et surtout partager si vous aimez ce que vous voyez pour que tout le monde le sache. Alors nous allons commencer par évoquer le dernier match de la CAN. L'Algérie envoie un message dans cette CAN en remportant le premier choc de la compétition, ce match tant attendu entre le Sénégal donc et l'Algérie. Un but de Youssef Belaïli en début de deuxième mi-temps, mais les Lions sénégalais n'ont pas réussi à égaliser. Des Fenecs déjà qualifiés, les Lions devront patienter. Une première victoire aussi, et c'est pour Madagascar, une victoire historique pour cette équipe débutante dans la compétition continentale africaine et l'espoir pour les Zébus malgaches de disputer un huitième de finale. Beau travail des Baléas de Nicolas Dupuis pour les Hirondelles qui se sont fort bien défendues, pourtant la situation est plus compliquée. Demain, nouvelle belle affiche programmée dans cette CAN entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Un match forcément particulier pour le sélectionneur marocain, pour Hervé Renard. Confrontation attrayante, mais pas décisive évidemment. Sur la pelouse, nous aurons notamment plusieurs prix. Marc Vivien Fauhé, ensemble ou face à face. Younes Belhanda, Sofiane Boufal pour les Marocains et Nicolas Pépé. En face. Enfin, pour terminer, on ira faire un petit tour en Amérique du Sud. Ça s'impose avec le premier quart de finale Brésil-Paraguay, soit la Selecao face à sa bête noire, une Albiroja du Paraguay qui l'a éliminé par deux fois au tir au but déjà. Mais les Brésiliens jouent à domicile. Invités, vous les voyez à l'image et je vous les présente. Mais vous commencez à les connaître maintenant, peut-être à les reconnaître même. Nabil Djellit, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Désolé, j'utilise mon portable pour partager le Facebook Live d'RFI. Voilà,
Merci voilà, Nabil.
Parce qu'on peut nous suivre aussi.
Vous avez énormément de suiveurs, alors vous avez raison, continuez. Ouais. Vous êtes de France Football aussi et notamment. Et il y a face à vous Patrick Juillard qui fait équipe, on va dire, ces soirs de foot 365 Afrique. Bonsoir Patrick
Annie,
Juillard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Merci d'être là. Et puis, on a fait appel à un autre confrère, notre ami gabonais, confrère gabonais, Freddy Koula, bonsoir.
Bonsoir Annie, je suis bien content d'être là, mais je suis surtout très triste pour mon deuxième pays, le Sénégal, parce que figurez-vous que mon paternel, il est sénégalais.
Ouais, on va en parler de ce match tout de suite. Radio Foot, c'est parti.
Belaïli, la frappe, et le but, cette frappe à l'entrée de la surface de Belaïli, il est parfaite la remise de Feghouli, et il n'y a personne devant Belaïli, et la frappe du droit, elle vient battre Mendy, il est fou furieux, Mendy, face à cette frappe et à cette ouverture du score algérien.
Une rencontre qui s'est résumée à ce but, commenté par Antoine Grenier et Joseph-Antoine Bell. Alors une victoire pour les Algériens et surtout un avertissement pour les Sénégalais. Le match vient tout juste donc de se terminer au Caire. On l'a vu sur la pelouse des Algériens. Très heureux, qui quittait difficilement la pelouse. Ouais. Il se congratulait et surtout on a vu pour une fois, on en parlait hier, mais là il y avait beaucoup de monde dans le stade et beaucoup d'Algériens vraisemblablement.
Bah oui, effectivement, il y a une caravane algérienne de toutes les manières qui suit toujours la sélection nationale parce que la sélection nationale c'est quelque chose qui est sacré en Algérie, un engouement qui est assez exceptionnel. Elle fédère tout un peuple. Et elle pense même des plaies, même si c'est pas toujours le rôle du football. Et puis effectivement on a vu ces Algériens extrêmement joyeux. Dans l'histoire du football algérien, battre le Sénégal c'est pas forcément un exploit, mais sur la séquence actuelle du football algérien sur les 3 ou 4 dernières années, c'est une belle performance.
Une belle performance donc, et évidemment du côté des Sénégalais on a plutôt quitté la pelouse tête basse, le regard un peu perdu. Coup de semonce, Antoine Grenier, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Merci d'être avec nous en direct donc du stade où vient de s'achever ce match. Un peu peut-être d'inquiétude maintenant dans la tanière. Comment analyser la performance tant des uns des autres? Est-ce que les Algériens, en gagnant 1-0, ont vraiment dominé la partie?
Ah oui, ils ont clairement dominé tactiquement cette équipe du Sénégal, des Sénégalais qui avaient passé leur avant-match à nous expliquer que ils refusaient ce statut de favori, qu'ils voulaient le mettre un petit peu de côté, un statut de favori qui sied pourtant à une équipe qui est la première au classement, la première africaine au classement FIFA. Et ben on se rend compte que finalement ils avaient peut-être raison, ces Sénégalais, de nous dire qu'ils n'étaient pas favoris, parce que autant le match contre la Tanzanie en ouverture de ce groupe C avait été plutôt convaincant et maîtrisé, autant lorsque l'adversité augmente un petit peu, eh ben on les retrouve pas, ces Sénégalais. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, et face à une équipe algérienne qui était bien en place, avec un Bounedja très actif, notamment en première période, même s'il a été un peu malheureux, l'attaquant des Fennecs, et puis face à un Belaïli dans cet état de forme aussi, qui était tout simplement partout et qui est l'auteur de cet unique but de la rencontre, ben les Sénégalais, ils ont pas réussi à trouver que ce soit des solutions face au jeu algérien, mais aussi des solutions dans leur propre jeu, parce qu'ils s'en sont beaucoup remis aux coups de pied arrêtés, et surtout ils ont montré très peu d'imagination. Sadio Mané était de retour de suspension, et il a d'une certaine manière, sans le vouloir bien évidemment, mais il a inhibé ses partenaires qui ont joué avec lui, qui ont joué pour lui, sauf que Sadio Mané, il peut pas faire la différence tout seul. L'Algérie en a parfaitement profité. Alors je sais pas si, comme disait Nabil, la sélection algérienne, elle est sacrée. En tout cas, c'est une sacrée sélection.
Mais bravo.
Belle formule.
Vous nous faites du Nabil Djellit, hein, Antoine Grenier. C'est le match, ouais, je pense.
Le but, t'as dit, c'est quand même d'être sacré à la fin. Je rappelle.
En tout cas, Antoine, vous intervenez quand vous voulez. Et pour ceux qui nous regardent à travers Facebook, eh bien, ils peuvent même vous voir assis dans ce stade encore. Patrick Juillard, avant qu'on donne la parole à Nabil Djellit, comment avez-vous vu et senti ce match?
Ben, je vais suivre, je vais m'inscrire dans les pas de ceux qui m'ont précédé au micro. C'est-à-dire que l'Algérie, on n'a peut-être pas la meilleure équipe sur le papier. Il suffit de regarder le classement FIFA. Il y a 46 places d'écart entre les deux équipes. Donc le Sénégal, sur le papier, a les meilleurs joueurs.
Et la première équipe d'Afrique classée.
Le foot, c'est pas
FIFA.
Sur le papier une addition d'individualité. Le
Évidemment.
Foot, c'est un sport collectif. Ça s'appelait football association avant de s'appeler football tout court. Et l'Algérie, c'est une meilleure association de joueurs que le Sénégal. Le Sénégal, c'est une équipe qui ne joue pas collectif. C'est une équipe qui s'en remet à ses individualités. C'est une équipe qui peut rappeler ce qu'était l'Algérie à la CAN 2017. Hein. Et il n'y a pas de collectif. Sadio Mané, on l'attend comme le Messi. Il peut pas tout faire. Le Messi a tous les sens du terme. Il peut pas tout faire. Et le Sénégal a très mal défendu. Le Sénégal s'est souvent fait avoir sur les côtés. Le Sénégal a manqué d'agressivité. Sinon, de faire des fautes parce qu'on est en retard. Mais ils ont pas eu de l'agressivité bien placée. Et en attaque, il n'y avait pas d'imagination. Et Mbaye Niang devant, je suis très sceptique sur ce positionnement. Il pourrait apporter beaucoup sur un côté. Je pense qu'il faudrait mettre un vrai avant-centre.
Nabil Djellit, est-ce que vous attendiez à ce que l'Algérie joue ainsi et surtout batte le Sénégal ?
Difficile de répondre par l'affirmative. Je sais depuis le début que cette équipe algérienne est bien plus sérieuse, en tout cas, que celle qu'on a vue sur les précédentes CAN. Elle est un peu en mode France, entre guillemets, si je peux me permettre. Jamel Belmadi a
France
dit...
en Russie ?
Voilà, Jamel Belmadi a notamment rencontré Didier Deschamps en septembre dernier. Il a dit qu'il l'inspirait beaucoup, l'appréciait énormément. Il a fait quelques choix forts comme Didier Deschamps. Il a remis de l'ordre dans cette sélection. Du talent, il y en a toujours eu. Mais en fait, l'Algérie, c'est un peu comme l'Uruguay. Soit il y a la grinta et les talents peuvent s'exprimer derrière. Mahrez, Belaïli, Bounedja, Feghouli, c'est des très bons joueurs de foot. Quand tout ça est réuni, c'est une équipe qui, de toute façon, est capable d'aller loin. Et elle est surtout souvent stimulée dans son orgueil lorsqu'on... Non pas qu'on la respecte pas, mais elle doit affronter des équipes plus fortes ou censées être plus fortes. C'est son histoire.
On la pique un peu.
Voilà, quand elle doit jouer l'Allemagne, c'est comme ça chez les Algériens. Dès qu'on leur dit en face, c'est plus fort que vous, ça marche à la fierté. Et en Algérie, on dit que ça s'appelle du NIF. Et nous, on dit souvent, entre guillemets, au pays du Nil, les Algériens, ils ont toujours du NIF.
programme.
C'est très inspiré.
On dirait Rémi Ngono.
Il est toujours inspiré, Nabil.
Surtout quand l'Algérie gagne.
Freddy.
Non, mais après, je respecte. Enfin, on va en discuter du Sénégal. Moi, je ne serais pas aussi définitif sur leur compteur.
Je ne suis pas définitif. Je juge ce que j'ai vu. Je n'ai rien vu.
Je trouve un peu sévère, mais on en discutera.
Vous, Freddy Koula, vous disiez que vous étiez déçu pour le Sénégal, mais est-ce que le Sénégal vous a déçu?
Oui, déçu pour la fin de match, parce que le Sénégal a gâché clairement ses 20 premières minutes qui étaient de bonne qualité. Je suis désolé, ils n'ont pas totalement raté le match.
Et on
parce
a
que
beaucoup vu Sadio Mané,
on a
justement
beaucoup vu Sadio. Évidemment, c'était un circuit préférentiel, oui, qui a été anticipé et intercepté par Belmadi, qui a très bien compris. On a vu l'activité de Belmadi sur la touche qui différait avec celle de son confrère Aliou Cissé. Le Sénégal a été bon 20 minutes. Ensuite, ils ont été mauvais la suite, surtout sur les transitions. On a vu l'absence. On a vu que ça se voyait, l'absence du milieu de terrain. Kalim Ndiaye avait remplacé au milieu de terrain son compère
Ndiaye. Pas Kadim.
Il y a l'autre là qui
était
présent. Et Crépin
Diata était là.
Crépin Diata était là.
C'est Drissa Gueye
qui manquait, qui sert souvent de milieu relayeur, qui sert aussi souvent de meilleur du jeu. Crépin Diata a été bon sur les premières minutes où il a essayé les doublements de passes, un triangle qui a voulu se former, mais la maladresse a été surtout criarde sur les phases arrêtées. Alors là, je n'ai pas du tout compris ce qu'ils ont voulu faire sur les coups francs qu'ils ont eu. D'abord notre ami Keita Baldé, mais ensuite Sadio Mané aussi a galvaudé quelques actions. Et c'est plutôt triste dans ces cas-là.
Antoine Grenier, est-ce que pour vous il y a eu un problème d'arbitrage, beaucoup de fautes et aussi peut-être un pénalty non sifflé?
Le pénalty, alors c'est assez compliqué de dire que c'est une faute d'arbitrage, parce qu'à vitesse réelle, on a l'impression qu'il y a pénalty. Quand on voit un ralenti, on a aussi l'impression que Sadio Mané se fait entre en collision avec deux défenseurs. Après, sur un autre angle, c'est un petit peu moins clair. Ce qui est sûr, c'est que on n'a pas eu le sentiment d'un match qui était vraiment maîtrisé par Gianluigi Casoue, qui est pourtant le Zambien un des meilleurs arbitres du continent. Il y a eu quelques décisions un petit peu curieuses, comme ce corner qu'il accorde au Sénégalais. C'est Sadio Mané qui va se préparer à le tirer. Et puis finalement, d'un seul coup, l'arbitre décide que non, c'est un 6 mètres. Bon, voilà, il y a quelques questions qu'on doit se poser, mais les Sénégalais ne peuvent pas s'abriter derrière ça, parce que les Algériens ne peuvent pas considérer qu'ils ont gagné grâce à l'arbitrage. Non, les Algériens, ils ont gagné par leur maîtrise tactique. Ça a été un match très engagé, ça a été un match qui n'était pas forcément débridé, c'était pas forcément le match que les supporters mettront dans leur top 10 ou leur top 20, voire leur top 50 des matchs de leur sélection. En revanche, c'est un match que les joueurs pourront épingler, eux, dans leur petit carnet, s'ils en ont un, parce qu'ils ont maîtrisé, les Algériens, de bout en bout, cette équipe sénégalaise, même si Mbaye Diagne se crée une opportunité en toute fin de rencontre à une dizaine de minutes de la fin du match. Les Algériens ont tout simplement été au-dessus du côté sénégalais. Effectivement, l'absence de Ganagay a pesé, ça s'est senti, il n'y avait pas le même impact au milieu de terrain. Ils ont perdu la bataille du milieu, les Sénégalais, et le retour de Ganagay pour les prochains matchs sera certainement un élément clé du parcours des Sénégalais.
Pour ce qui est un petit mot sur l'arbitre, vous n'êtes pas d'accord.
Moi, ça va aller vite, très honnête. Pour moi, il y a pénalty sur Sadio Mané. Et autre élément que je constate et que je vois sur ce match, très honnêtement, je pense que l'Algérie ne devait pas finir à 11 ce match. Avec autant de fautes, il y a Ben Lamri, le défenseur central algérien, qui fait une première faute très dangereuse. Il prend un jaune. Il en fait une deuxième dans l'axe sur Mané qui part. Très sincèrement, Annie, bon, vous connaissez ma sympathie pour l'Algérie, mais ça n'empêche pas d'avoir l'objectivité et l'honnêteté intellectuelle. Si l'Algérie ne termine pas ce match à 11, c'est pas un scandale.
Non, mais c'est un arbitre polémique.
Justement, Antoine disait un des meilleurs arbitres du continent. C'est pas un des meilleurs arbitres, c'est un des arbitres les mieux notés, les plus appréciés par la CAF. Ça veut pas dire la même chose.
Ali, c'est vrai en plus. Mais voilà. Ceux qui regardent les coupes africaines.
Il a été dans plein de matchs polémiques. Et ensuite, une dernière petite chose qu'on n'a pas du tout soulignée, l'Algérie a gagné surtout parce qu'elle a des joueurs qui ont l'expérience de l'Afrique dans son équipe, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Le Sénégal n'a aucun joueur évoluant localement dans l'équipe. L'Algérie a Belaïli, a Bounedja qui a déjà gagné la Coupe de la CAF avec l'Étoile du Sahel. Belaïli a gagné la Ligue des Champions avec l'Espérance. Ils ont une expérience de ces matchs en Afrique que n'ont pas les Sénégalais.
Freddy, un petit mot.
Oui, il y a eu pas mal de matchs où Monsieur Sikwaze a été notamment pointé du doigt sur son favoritisme, notamment quelques matchs en Afrique du Nord. On l'appelle en Afrique l'arbitre Monsieur Salboulot. C'est-à-dire que quand on a vu d'ailleurs à l'annonce de de sa participation à ce match où il devait être arbitre central. Il y a eu énormément de craintes au Sénégal notamment, mais on sait très bien que tous ces matchs en majorité terminent toujours avec des polémiques, et c'est triste de voir qu'il n'a pas eu à maîtriser le match. Des deux côtés, il y a eu énormément de fautes de sa part, mais sur le penalty, il aurait dû le siffler.
Deux bémols, le penalty, même s'il avait été sifflé, n'aurait pas forcément été marqué. Ensuite, l'Algérie avait quand même les moyens de gagner ce match. Il y a eu les plus grosses occasions étaient algériennes, nonobstant cette histoire de pénalty.
Après, pour revenir sur le Sénégal très rapidement, c'est une bonne piqûre de rappel. J'ai trouvé que collectivement, ils avaient été meilleurs face à la Tanzanie, même si c'est une autre adversité. Rappelons également, et c'est important à dire, que Sadio Mané, ça fait un moment aussi qu'il n'a pas joué. En termes d'intensité et de rythme, ça rentre en ligne de compte. Et puis Antoine a dit une chose qui est à mon avis extrêmement intéressante et précieuse. Ils ont quand même au milieu de terrain un métronome, un garçon qui a de l'expérience, qui est pour moi un des meilleurs joueurs
Que le Paris Saint-Germain avait poste, convoité. Voilà.
C'est Idrissa Gueye. À mon avis, ça change beaucoup de choses. Et je pense que pour l'Algérie, le plus dur commence. On estimait que c'était une équipe qui était peut-être trop forte pour être outsider et trop faible pour être favori. Aujourd'hui, après ce match face au Sénégal, j'espère qu'il n'y aura pas j'espère qu'il n'y aura pas le syndrome de la montgolfière. Ça va être le travail aussi de Jamel Belmadi de garder ses hommes concentrés, mais je lui fais confiance.
La montgolfière, pour l'instant, elle est du côté sénégalais. Hein, mais bon.
Antoine Grenier, vous retiendrez le syndrome de la montgolfière. Je pense que ça pourrait vous plaire.
C'est un syndrome très dangereux en Afrique.
Oui, il faut de l'air chaud pour faire monter les montgolfières. Il y en a énormément ici au Caire, donc ça va donner des espoirs aux supporters sénégalais.
Non, moi, je le pense vraiment.
Mais en Afrique, le melon n'est pas toujours indomptable.
Annie, il y a un élément qu'on a oublié de signaler quand même. En défense centrale du Sénégal, il n'y avait pas Salif Sané qui était blessé le match
précédent. On en avait parlé avant le match, effectivement.
Le gros choix, qui est un choix polémique, que je n'ai pas compris du tout, c'est d'avoir mis Cheikh Okoyate en défense centrale.
Il avait été bon contre la Tanzanie quand il est rentré.
Il n'est pas rentré en défense centrale, il était au milieu, malheureusement. Oui. Et donc, cette charnière-là n'était pas du tout bonne.
Antoine Grenier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il reste deux matchs, le Sénégal qui jouera contre le Kenya et l'Algérie contre la Tanzanie. Donc, on aura l'occasion de vous retrouver, n'est-ce pas?
Ben, il reste surtout à Nice ce Kenya-Tanzanie qui va se jouer dans quelques instants sous nos yeux ici au stade du 30 juin. Et c'est un match qui, par le résultat de ce Sénégal-Algérie, devient extrêmement important pour les deux équipes. Il l'était déjà. Là, l'équipe qui gagne ce soir va rejoindre le Sénégal à la deuxième place du classement avec 3 points. Et en sachant que les Kenyans joueront les Sénégalais lors de la troisième journée, ben voilà, peut-être que Sébastien Migné aura l'occasion de s'offrir la finale dont il rêvait, mais peut-être aussi que les Tanzaniens qui joueront un troisième match contre une Algérie déjà qualifiée vont vouloir prendre les points dès ce soir pour pouvoir commencer à réfléchir, pourquoi pas, à une place en huitième de finale.
Merci beaucoup Antoine Grenier. Et pour ceux qui nous regardaient via Facebook Live, on a pu vous voir dans votre stade. Ouais. Merci beaucoup et bon deuxième match donc entre le Kenya et la Tanzanie. Effectivement, ces deux équipes, elles ont été battues chacune 2-0 par les deux équipes qui s'affrontaient cet après-midi. Alors on a deux équipes étoilées sur la pelouse, c'est Harambee Stars et c'est Taifa Stars. comment voir cette rencontre? Antoine le disait, évidemment, quand il y en a un qui perd, tout d'un coup, les autres peuvent espérer l'emporter. Et on le verra tout à l'heure, les calculs du meilleur troisième et tout, ça devient important.
Oui, et ça va être une certaine opposition de style ce soir. Le Kenya est une équipe très physique, très costaud, très britannique. Alors que la Tanzanie, c'est pas le même genre de gabarit, c'est un jeu plus à la néerlandaise qui fait plus courir le ballon. Ils ont eu beaucoup de mal contre le Sénégal parce que le Sénégal les a forcés à faire ce qu'ils n'aiment pas faire, c'est-à-dire défendre. S'ils ont un peu plus le ballon, ça peut être intéressant dans le jeu, mais je donnerais un petit avantage au Kenya qui me semble quand même un peu mieux physiquement, mais c'est pas sûr. Ça peut faire un match
nul. Vas-y, je t'en prie, frère. Je sais que t'es spécialiste du football tanzanien.
j'ai un ami tanzanien en plus. Non, on voit bien que
depuis le début de l'Algérie.
Les équipes qui réussissent le mieux, ce sont celles qui jouent le plus. Ouais. Ce soir, on a bien vu que le Sénégal a essayé et a été battu sur quelques séquences sur son aspect physique. Et quand on joue au football et qu'on a des décalages, comme fait la Tanzanie, mieux que le Kenya, j'ai vu Wanyama,
mais vraiment perdu ce que contre le Sénégal.
Si Wanyama n'arrive pas à s'en sortir dans cette équipe-là, c'est beaucoup plus difficile pour l'équipe parce qu'elle est construite autour de lui et la relation entre le milieu et l'attaque est très 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 mauvaise sur le premier match notamment. La Tanzanie a beaucoup plus de mobilité, je pense qu'elle fera beaucoup plus mal à cette équipe-là.
C'est ce que j'ai dit, mais il faut encore qu'elle se mette au niveau de l'événement. J'ai trouvé que contre le Sénégal, ils étaient vraiment passés à côté et pour moi, sur les premiers matchs, c'est avec la Mauritanie l'équipe la plus faible qu'on ait vue.
Nabil?
Bah moi je rejoins plutôt Freddy. Je sais que Patrick apprécie énormément le buteur de tanzanien parce que c'est lui qui m'en a parlé le premier.
J'en suis un grand fan.
Il y a, il y a quelques années, ça m'attache.
Il fait pas tout seul. Hein.
Je trouve cette équipe kenyane extrêmement limitée. Vraiment, c'est très primaire dans le jeu. C'est un bloc solide. J'ai vu peu de qualité d'arguments offensifs. Je pense que la mobilité, le collectif tanzanien, même s'il a été mis en difficulté face au Sénégal, a quand même les moyens, à mon sens, de reprendre un peu du poil de la bête ce soir. Moi, je vois plutôt la Tanzanie et je vois Samata au rendez-vous, très sincèrement.
On verra ça donc demain dans Radio Foot International, parce que quand même on fait pas des émissions en permanence, il n'y en aura pas une troisième, hein, je vous préviens.
Ah dommage, je serais bien venu, moi.
Oh je sais, vous êtes là d'ailleurs fidèle au poste, Nabil, ouais. Et on ne l'oublie pas, et vous tous d'ailleurs qui nous permettez de faire ces émissions qui sont très appréciées par nos auditeurs africains. Et maintenant, nous allons parler d'un petit événement au niveau de la CAN, un événement historique, et nous prenons la direction d'Alexandrie.
Il est maritra, buteur sur coup franc qui accroche la lucarne Boundez, le peuple malgache qui explose, les supporters qui explosent, les joueurs qui explosent, le banc de touche qui explose, les Baréas mènent 1-0 face au Burundi à un quart d'heure de la fin. Le coup de sifflet final est... C'est fait Hugo, victoire de Madagascar sur le Burundi 1-0, les Baréas tout proche désormais d'une qualification pour les huitièmes de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, et cela Hugo pour la première participation de leur histoire à la plus belle des compétitions africaines de football.
La sensation, Madagascar, les Ébus ont gagné leur premier match de CAN pour leur première participation. Invaincu après deux matchs, invaincu avec 4 points, ils pourraient donc se qualifier pour les huitièmes de finale. 4 points et 3 buts, c'est faisable. En tout cas, Alejandro Valente a essayé d'étudier tout cela d'une façon très mathématique. Oui, c'est possible. Et les Ébus, eux, étaient tout simplement heureux à Alexandrie d'avoir... marquer l'histoire, on va dire, de leur football, de leur île. Écoutons l'attaquant de ce groupe, Faneva Ima, au micro d'Hugo Moissonnier.
On a réuni aussi notre CAN, je pense, entre guillemets, parce que pour moi, rentrer dans l'histoire, c'est gagner un match dans cette compétition. On est rentré dans l'histoire déjà, et qu'il faut qu'on profite au maximum jusqu'au le plus loin possible.
Le plus loin possible, vous pensez déjà au 8e ou non? Là, on reste concentré, mobilisé, avec un ogre qui arrive, le Nigeria.
Avec 4 points, c'est pas encore validé, parce que même s'il y a certes il y a un meilleur troisième, quatre meilleurs troisièmes, mais il faut voir les points obtenus par les meilleurs troisièmes dans les autres poules. On croit à notre chance, on a nos dessins en main et on va essayer de tout donner.
On va essayer de tout donner. Évidemment, ils ont déjà d'ailleurs beaucoup donné, ces joueurs malgaches. Hugo Moissonnier, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis habitué aux invités surprises. Vous avez toujours les mêmes à ce que je vois.
Non, on a Freddy Koula ce soir comme invité surprise.
Ah, Freddy Koula, voilà, un invité surprise.
Et puis pour ceux qui nous regardent sur Facebook Live auront découvert que vous avez volé le chapeau de David Finzel.
Exactement, je suis parti, il me manque trop David, là où je suis, donc j'avais besoin d'un petit quelque chose qui lui appartient. Vous savez, je suis comme si tu es un grand sentimental.
Bon alors Hugo, on sait qu'avec vous, il se passe toujours quelque chose là où vous êtes, et là vous avez assisté à un moment historique, en tout cas historique pour le football malgache, et c'est vrai qu'on a vu la joie de ces joueurs de Madagascar, juste avant le coup de sifflet final, déjà ce 1-0 paraissait acquis, et la victoire surtout paraissait acquise.
Ouais, enfin, ça a été quand même très très difficile, hein, ce coup franc de Marco Ilema Aritra. C'est presque un petit miracle, plutôt son obtention par Paulin Wavi a été un petit miracle. Désolé, il y a des chats dans le stade d'Alexandrie que vous apercevez derrière moi. Dans ses travées, il y a quelques chats qui rôdent. Il y en a un qui s'est fait entendre. Alors peut-être qu'il est pas d'accord avec ce que je dis, mais moi je pense quand même qu'elle a été difficile à obtenir, cette victoire pour les Baras, surtout en seconde période. Je discutais avec Ibrahim Amada, l'un des milieux de terrain malgache, et la chaleur notamment a rendu les choses difficiles pour ces joueurs malgaches. Le Burundi a même dominé vraiment la seconde période, coup franc obtenu un peu miraculeusement, mais le talent d'Ilema Ritra, peut-être l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations, a fait la a fait la différence. Et puis derrière, il y a cette abnégation qui permet de plier, mais de ne jamais rompre. C'est vraiment l'esprit collectif qui, une nouvelle fois, a porté les Malgaches ce soir.
Oui, c'est ce qu'on a senti. Mais le buteur hein, sur ce magnifique coup franc, on s'en tiendra au prénom. Marco, on viendra pas à son nom entier.
Il est malitra.
Mais en tout cas, oui, j'ai remarqué que nos camarades s'étaient entraînés hein, pour tous ces noms malgaches. En tout cas, tout à l'heure, à votre micro, Hugo, le sélectionneur, Nicolas Dupuis, vous a expliqué pourquoi ils ont marqué.
Ah, il passe tellement de temps à l'entraînement à frapper les coups francs que des fois il me saoule quoi.
Bon alors là ils ont pas dû vraiment le saouler hein.
Non, mais David. Franchement la qualité de ses coups de pied arrêtés c'est quelque chose. Marco Ilarra Maritra qui a été formé en France du côté de Sochaux.
Sochaux oui.
Alors pour la petite histoire son premier match en Ligue 1 il était rentré au Parc des Princes mais on s'était rendu compte qu'il avait oublié son maillot donc on avait dû recourir dans le vestiaire pour aller lui chercher son maillot. C'est la petite anecdote. C'est un joueur que je connais que depuis pas mal de temps qui est vraiment adorable. Moi, j'aime bien le milieu de terrain de cette équipe malgache, notamment avec Amada également, qui joue du côté du MC Alger. C'est cohérent, ça joue bien. On voit les circuits de passe. Il y a des joueurs qui surperforment comme Carolus qu'on connaît.
Alors justement, Carolus aujourd'hui a été sorti par en Dupuis, cours de deuxième mi-temps par Dupuis. Il n'était pas content du tout.
Ah, il boudait carrément. Quoi.
Et je pense que si ça avait mal tourné pour Madagascar, ça aurait pu laisser des traces. Mais là, la victoire risque de tout effacer, vraiment.
C'est l'occasion de saluer quand même le coaching de Dupuis qui lui a choisi de faire sortir Carolus qui à ce moment-là.
Son remplaçant n'a rien apporté.
Le remplaçant aussi, c'est lui qui a causé. C'est là en fait l'impression.
Parce que sur le jeu, j'ai pas trouvé qu'il.
C'est un gros coup de poker. C'est lui qui obtient le coup franc. Le coup franc, il est marqué dans la foulée. Et à la fin du match, on a bien vu comment Dupuis était en train de parler à Carolus. On a eu cette impression qu'il a joué un coup de poker plutôt gagnant sur le coup, quoi.
Mais justement, c'était vraiment une histoire de coup franc ce match, puisque juste avant le but malgache, le Burundi obtient un coup franc, d'ailleurs situé à peu près de la même manière. Et Bigirimana, l'ancien joueur de Newcastle, était tout proche de marquer. Il a fallu un bel arrêt de Melvin Adrien là dans le but de Madagascar. Mais c'est un match qui s'est joué à pas grand chose, mais globalement quand même sur la totalité du match, Madagascar était un ton au-dessus.
Ils ont eu plus d'occasions.
Ils ont plus envoyé du jeu que le Burundi qui a vraiment bien joué que 20-25 minutes en deuxième mi-temps. Et puis Inaï Maritra aurait pu doubler la mise. Il a eu un deuxième coup franc qui était cadré, qui a été sorti par le gardien burundais. Donc c'était quand même le Madagascar a du mérite, produit beaucoup de jeux. Hein.
Parlons de ces hirondelles du Burundi et notamment écoutons Fiston Abdulrazak, Thomas de Saint-Léger a rencontré juste à la fin du match qu'il commentait avec vous, Hugo, et il veut s'en tenir eh bien, à une chose, c'est que les choses ne sont pas encore terminées.
Je sais pas quoi dire. C'est comme si c'est deux équipes différentes. L'équipe qui a joué contre le Nigeria, c'est pas l'équipe qui a joué aujourd'hui contre Madagascar. Mais la vérité, c'est que c'est la même équipe, mais aujourd'hui, on était, je sais pas, un peu lourd. Maintenant, on va se concentrer contre Guinée. Il faut que nous aussi, on rigole et on fait quoi. Donc, on va partir là-bas pour gagner. Et après, là, on va regarder des calculs parce qu'on peut pas dire que non, c'est terminé. Non, c'est pas encore terminé. Peut-être, on peut avoir des miracles, on peut passer comme des meilleurs perdants, on ne sait jamais.
Hugo, ils ne sont pas trop abattus, ils veulent évidemment encore y croire, ces joueurs du Burundi. Et en plus, ce qu'ils ont montré sur la pelouse aujourd'hui peut les laisser espérer, évidemment.
Bah, en tout cas, comme je disais, ils ont dominé la seconde période. Alors, après, je les trouve intéressants dans l'attitude, dans l'impact. Bigirimana notamment Abdulrazak, bien sûr, qu'on vient d'entendre, Fiston, il se bat sur tous les ballons. D'un point de vue technique, Madagascar a plus de ballons. Il y a plus de ballons du côté de Madagascar que du côté du Burundi, je trouve. Et ça s'est senti notamment après l'ouverture du score malgache, lorsqu'il a fallu faire le jeu. Pas mal d'imprécisions qui n'ont jamais vraiment permis aux hirondelles d'y croire à cette égalisation. Je pense qu'il y a quand même des limites du côté du Burundi. Elles sont incarnées par quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié rencontrer sur cette CAN, Saïdo Beraino, mais qui globalement n'est pas vraiment à la hauteur de la situation, n'est pas à la hauteur dans cette compétition. On sait que sa fin de saison a été très compliquée, donc il a peut-être manqué un peu de rythme, un peu de jus, Saïdo Beraino. Donc je pense quand même qu'il y a des grosses limites dans cette équipe du Burundi, des limites techniques quand on compare à cette équipe de Madagascar. Et puis les remplaçants, il y a eu pas mal de changements, notamment l'entrée de deux arrières latéraux, le retour de deux arrières latéraux au coup d'envoi, mais ça n'a pas été très très concluant, alors que du côté de Madagascar, on a à la fois de la continuité, le même 11 de départ qui débute, on a également, on en a parlé, des remplaçants qui apportent quand ils entrent en jeu, et on a même eu un changement de gardien avant la CAN qui n'a pas fragilisé l'édifice malgache. Je trouve qu'il y a plus de certitude du côté malgache si on doit le comparer à, si on doit comparer Madagascar à un autre petit, oui, c'est le Burundi.
Freddy Koulin.
Ça a été une des meilleures défenses pendant les éliminatoires. Leur force était justement cette abnégation, ce courage. Ils n'ont pas été flamboyants techniquement, et même le match contre le Mali ou contre le Gabon, ils n'ont pas dominé les débats techniquement. Ce qui faisait leur force, c'était justement la cohésion. Ils arrivaient à se créer beaucoup d'occasions. Malheureusement, dans cette canne-là et surtout ce match-là, ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Et le symbole de cette équipe-là, c'est Amissi. Ce n'est pas forcément Saïdo Merahino qui est venu sur les deux derniers matchs, mais c'est surtout Amissi qui n'a pas été présent dans ce match-là. C'est lui qui régule le jeu, c'est lui qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, et malheureusement il était en dedans dans ce match. Même Abdoul Razak n'a pas pu se mettre grand chose sous la dent. Malheureusement, quand on ne crée pas du jeu et qu'on est limité techniquement, on arrive à des situations où on n'est pas du tout dangereux.
Après, c'est pas terminé pour le Burundi, hein.
Ce n'est pas terminé, non, il y en a qui disent qu'ils sont éliminés, mais ils peuvent encore passer, quoi.
Il n'est pas interdit, dernier match. Ouais. Il leur est pas interdit d'espérer battre la Guinée vu ce qu'a montré la Guinée, ouais, depuis le début.
Merci beaucoup Hugo Moissonnier d'avoir été en direct avec nous et avec votre petit chapeau, et grâce eh bien à Steven Hesley qui assurait cette si jolie image de vous dans un stade.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci beaucoup Hugo Moissonnier. Allez, on continue avec l'affiche de demain. L'affiche de demain, eh bien, ce sera Maroc-Côte d'Ivoire. Un autre choc, deux équipes qui se connaissent bien en plus. Bien, et c'est surtout Hervé Renard qui les connaît bien, ces équipes, puisqu'il entraîne les Lions de l'Atlas après avoir gagné en 2015 la CAN avec les éléphants. Qui plus est, l'homme à la chemise blanche était déjà avec ses Lions marocains lorsqu'ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde en Russie. Et c'était aux dépens des Ivoiriens. C'était à Abidjan, RFI avait couvert ce match. C'était notamment Olivier Pron qui y était. Alors, y a-t-il un air de revanche entre ces deux équipes dans l'air depuis ce match de fin 2017? Le sélectionneur ivoirien Ibrahim Camara, Camso pour les plus intimes, ne veut pas penser à ça. Il est donc au micro d'Olivier Pron.
Nous, on n'est pas là pour faire une revanche. Au football, il n'y a pas de revanche. Les matchs ne sont pas les mêmes et les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais là, juste pour chercher à réaliser notre premier objectif qui est de sortir des poules. Maintenant, ça se trouve que le Maroc est dans notre poule. Si ça doit passer par là, on essaiera de faire tout ce qui est à notre possible. Après, la revanche, je ne pense pas que ce soit l'objectif pour nous. S'il faut battre le Maroc et retourner à la maison, je ne pense pas que ce soit l'objectif.
Alors, c'est pas l'objectif, la revanche. Côté Hervé Renard. Hervé Renard, eh bien, j'ai l'impression que les éléphants lui donnent quand même un petit peu des cauchemars, parce qu'il a déclaré dans sa conférence de presse à lui, quand je pense au potentiel de l'attaque de la Côte d'Ivoire, j'ai des maux de tête, donc je me concentre sur mon équipe. Une question, Freddy Koula. Est-ce qu'il a raison de se concentrer sur son équipe et d'oublier un peu les éléphants et Hervé Renard?
Quand on regarde ce qui s'est passé sur le match de chacun, on peut avoir peur de cette attaque de Côte d'Ivoire qui est bien plus fougueuse et a de la ressource sur le banc de touche. On a quand même vu qu'il y avait Zaha sur le banc.
Ils sont bien rentrés dans la compétition.
Oui, ils sont bien rentrés et on peut dire qu'ils font peur. Mais là où Hervé Renard peut avoir l'avantage, c'est qu'il joue face à son ancien adjoint. Évidemment, il sait très bien comment ça fonctionne, une équipe qu'il a coachée avec 60% de l'effectif qu'il a eu entre les mains. Tactiquement, c'est peut-être meilleur le Maroc, mais ça se joue sur quelques détails. Et je pense que le Maroc est programmé pour monter en puissance dans la compétition. Peut-être que sur le deuxième match, ils vont montrer un meilleur visage. La Côte d'Ivoire, ça va jouer sur des détails techniques et peut-être de la folie de ses attaquants, parce qu'ils ont quand même de sacrés attaquants.
Ceux qui nous regardent sur Facebook Live, ils peuvent le voir, cette équipe qui arrive à l'entraînement, notamment cette équipe des éléphants. Nabil Djellit.
Très excité, moi, par ce match. Beaucoup d'interrogations. J'entends ce que dit Freddy. Effectivement, le Maroc, on peut s'attendre au fait qu'il puisse monter en puissance au fur et à mesure de cette compétition. Ils ont les ingrédients pour ça, mais je suis quand même curieux. Je m'interroge un peu, très sincèrement, sur cette équipe du Maroc.
Premier match, par contre, alors eux, ils ont gagné en rentrant dans la compétition, mais alors
Après, il y a d'autres éléments un peu exogènes qui me font dire. Je sais pas, c'est un peu de l'intuition, mais c'est vrai qu'on sait qu'Hervé Renard va pas continuer très certainement avec l'équipe du Maroc après, ce qui veut pas dire que les joueurs ne vont pas être concernés, vont pas essayer d'aller chercher le sacre, parce que le Maroc court aussi depuis très longtemps derrière une Coupe d'Afrique des Nations. Il y a certains joueurs cadres sur lesquels je m'interroge, et puis il y a toujours ce même problème du côté marocain. Il y a de la qualité offensive dans les intervalles avec les milieux offensifs, mais il manque toujours historique. Toujours un tueur, même si Enes Seri a fait une bonne saison du côté de Leganés. Moi, je suis très très curieux de voir ce match.
Enes Seri a été absolument catastrophique contre la Namibie, mais il a été utilisé dans un registre d'attaquant de pointe unique, alors que c'est plutôt un deuxième attaquant, c'est plutôt un joueur pour tourner autour d'un autre avant-centre. Et ça, Hervé Renard l'a corrigé en faisant entrer Boufal, qui a apporté de la percussion. Et ce qui manque pour moi à ce Maroc-là, c'est bien huilé, les deux lignes, la défense, le milieu, c'est bien huilé dans l'ensemble. Ils ont trouvé un bon gardien, mais il manque un peu de percussion et de prise de risque dans les 30 derniers mètres. Et ça, un joueur comme Boufal l'apporte. Un joueur comme Amrabat.
On a beaucoup remarqué son entrée en jeu.
Dans un autre genre, lui, il aime bien aller au duel, il aime bien le défi physique. Ouais, c'est utile.
Il aurait pu être algérien, Amrabat.
Ouais, c'est utile sur des matchs contre la Côte d'Ivoire, contre des équipes comme ça. Et la Côte d'Ivoire, en revanche, j'ai trouvé quand même que sa défense.
Mais défensivement, il n'y a pas Bailly.
C'était quand même pas. Voilà, l'absence de Bailly coûte beaucoup et j'ai trouvé que c'était pas encore parfaitement bien huilé contre l'Afrique du Sud.
Hein. Moi, je suis pas trop d'accord. Je sais que c'est une émission de débat, mais je trouve justement que Ismaël Traoré de Angers correspond complètement.
Oui, mais les côtés, les deux
non,
côtés.
Je parle, ouais, mais tu parles de Bailly, donc c'est un central.
Oui,
donc
mais
je
d'accord,
parle d'un
mais
central.
Je trouve que c'est la coordination globale, c'est pas encore
Traoré
bien.
Traoré et Canon, ils n'ont pas beaucoup joué de match pendant toutes les éliminatoires. Il y a eu
Canon,
c'est bizarre, mais cette équipe, alors, peut-être qu'on va être content du côté d'Abidjan. Mais cette équipe ivoirienne ne m'inquiète pas, moi. Je pense que c'est une équipe, franchement, en trompe-l'œil, qui risque de causer beaucoup de soucis demain au Maroc. Et à un moment, il y a aussi des stars. Il y a Ziyech d'un côté qui a peut-être un peu surjoué, qu'on attend demain. Et puis, moi, je crois aussi que Nicolas Pépé, il y a un moment, il va aussi sortir de la tanière, même s'il a fait des bonnes choses sur la première mi-temps. Donc, je sais pas. Voilà. C'est juste mon ressenti.
Freddy, justement, peut-être cette équipe des éléphants, comment vous la voyez-vous par rapport à Nabil ou Patrick?
Elle est séduisante sur le papier. Je pense qu'individuellement, elle est bien meilleure que celle du Maroc. Ça va jouer au milieu. Ce qui m'impressionne, moi, sur le premier match, notamment, ils ont un sacré milieu de terrain, quand même, les Ivoiriens, avec Kessié, Serraillier et Seri.
Seri en 10, c'est pas une
malheureusement, Seri en 10, et surtout, depuis son transfert avorté à Barça, ce n'est plus le même Seri qu'on
pas
a
le
voulu
en
voir.
10. Classique. Bah, faut voir 10 comment. À la Pirlo.
Il faut voir si Camara va remettre ce milieu de terrain avec trois milieux défensifs quand même. Sur le papier, c'est alléchant d'avoir ces trois milieux, mais ce sont trois milieux défensifs quand même. Il va peut-être réajuster Camara sur le deuxième match et mettre peut-être un joueur plus offensif s'ils ont envie de gagner. Il peut aussi jouer la prudence, c'est à voir. Mais défensivement, comme a dit Patrick, ça craint quand même côté Côte d'Ivoire. Mais devant,
j'ai
ça
des
peut
craintes,
faire très
moi,
mal.
Sur la ligne de 4, en fait, je trouve que c'est. Il a manqué d'automatisme. Il y a eu l'Afrique du Sud a été trop timide, mais je les ai pas trouvés hyper sereins sur ce match. Voilà.
Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a de la ressource. Ils se permettent quand même de laisser des joueurs comme Wilfried Zaha sur le banc.
Il y a Cornet.
Pas
quand
les
même,
Ivoiriens, c'est marrant. Ils font penser aux Algériens. Font un peu penser aux Algériens sur ce tournoi. Entre l'outsider et le favori. Voilà. Mais je crois que c'est des équipes pièges pour des équipes qui doivent assumer le statut de favori. Parce que dans cette histoire, qui est le favori? C'est le Maroc d'Hervé Renard pour plusieurs raisons. Et je trouve que demain, c'est un très gros test.
En tout cas, messieurs, ce qu'on pourrait constater aussi, c'est que sur la pelouse, demain, il y aura trois anciens prix Marc-Vivien Fauré. Ouais. Alors, évidemment, le tout neuf, tout frais, celui qui vient d'avoir son prix, et vous le voyez sur notre Facebook Live avec son joli prix, c'était au domaine de Luchin, hein, le réfé lui remettait son prix, c'est Nicolas Pépé, donc
c'est
l'éléphant.
C'est le meilleur joueur de Ligue 1 si on a Mbappé, quoi.
Oui. Voilà.
C'est pas mal.
Pour vous, c'est pas mal déjà, effectivement. Et puis, on a deux lions de l'Atlas, à savoir Sofiane Boufal, à qui on avait décerné le prix en 2016, et Younes Belhanda. Et c'était plus ancien. Quand il jouait à Montpellier, c'était en 2012.
Jean-Michel, c'est vrai.
Ah oui, bien sûr.
2017.
Ah oui.
Eh ben,
c'est même
demain,
moi.
Il faut renommer
de chaque côté.
Il faut renommer ce match, le RFICO.
Le
RFICO, voilà.
On le dira demain à nos camarades. En tout cas, effectivement, quatre prix et deux de chaque côté. Alors, est-ce que ça va équilibrer les débats?
ça donne envie et c'est surtout qu'on a cette impression que la phase de transition pour les deux équipes d'ailleurs, je pense à la CAN 2017, a été passée. Cette équipe ivoirienne était bien plus désordonnée en 2017 qu'on en a l'air. Là, Camara a mis un tout petit peu sa patte, même si on ne voit pas très bien ce qu'il a envie de montrer dans le jeu, mais il y a de la cohésion, il y a un peu de l'idée avec beaucoup de verticalité dans le jeu. Ça va jouer sur beaucoup de détails, mais on espère surtout voir le caractère des Ivoiriens sortir parce que c'est là où on les attend dans le caractère, parce qu'il y a pas mal de bons caractères, et notamment Serge Aurier et Serraidier.
Mais moi, j'espère surtout qu'ils seront tous les quatre sur la pelouse, et j'espère surtout que Hervé Renard remettra Sofiane Boufal, qui a vraiment apporté beaucoup lorsqu'il est rentré.
Il faut voir sur 90 minutes, parce qu'il est rentré en joker, il a fait des différences, mais je
demande. Sur les 20 dernières minutes,
volume,
à peu près.
En termes de volume, ça va être intéressant. Demain, c'est aussi encore, on a eu Mahrez Mané. Demain, c'est Ziyech Pépé. Ben, franchement, là, cette Coupe d'Afrique, quand même, on se régale. Il y a quand même des super joueurs sur le terrain.
Parce que l'inhabile sur Boufal, ça tient aussi sur Ziyech, qui, sur un match, n'arrive pas à tenir sur la durée. Il est bon, 30 minutes, 40 minutes ou 60 minutes, mais dans le long terme, il finit toujours par plonger. Il faudra qu'il soit beaucoup plus constant pour faire la différence.
Alors demain, on vous en parlera dans les rendez-vous de Radio Foot, hein, demain à 15h10, heure de Paris, et ensuite, nous serons demain à 23h10, notez-le bien, parce qu'il y a un quart de finale de Coupe du Monde féminin. Il y aura avant, donc en milieu d'après-midi, retransmis sur RFI, un Tunisie-Mali. Ça sera au stade de Suez et puis aussi un Afrique du Sud, Namibie. Donc, ça ne s'arrête jamais sur RFI. Et là, quand même, on se permet une petite escapade un peu loin de l'Afrique. On part en Amérique du Sud. Ceux qui n'ont jamais écouté de Bateria di Samba, hein, au Brésil, et bien voilà ce que ça peut donner quand il y a une cinquantaine de musiciens ensemble dans les rues de la ville ou au carnaval. Alors la Copa América se déroule donc au Brésil et elle vivra dans quelques heures. Alors pour ceux qui aiment veiller, et bien ce sera au milieu de la nuit en France. Le premier match à élimination directe, un quart de finale au stade de Grêmio de Porto Alegre, hein, c'est au sud du Brésil. La France avait joué là-bas en 2014, hein, pendant la Coupe du Monde. Et la Seleção de Tite, et bien jouera face à l'Albiroja, la rouge et blanche de l'Argentin Eduardo Berisso. Alors un match important, et on va vous expliquer pourquoi. En tout cas, Tite, le sélectionneur des Brésiliens, sait que l'enjeu est énorme.
Ce sera un match couperet, il faudra donc jouer au maximum et aussi être fort dans nos têtes, avec un niveau de concentration très élevé. Il faudra de même être prêt à répondre à toute situation pouvant se présenter, être capable de changer le rythme de jeu quand il le faudra. Je m'attends aussi à un match très physique avec beaucoup de contacts. Il va donc falloir savoir bien interpréter les aléas du match et bien exploiter les situations à balle arrêtée.
Alors depuis tout à l'heure, on parle des meilleures équipes sur le papier. Oui. Eh bien, je pense que le Brésil, théoriquement, est une meilleure équipe sur le papier. On a Coutinho, Firmino, Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos et le flambant jeune Everton. Et je cite pas tout le monde. Mais les Paraguayens, eux, ils ont un peu traumatisé les Brésiliens. Parce que par deux fois, en 2011 et en 2015, ils les ont éliminés en Copa América, en quart de finale. Et c'était aussi un moment important, puisque c'était le moment des tirs au but. Alors, on les connaît, les Paraguayens. Il y a cette gara, ce mur Guarani surtout, et je crois que tout le monde s'en souvient, surtout les Bleus de 98, n'est-ce pas Patrick Juillard?
Ce fameux but, but en or, puisqu'à l'époque il y avait l'arrêt du but en or de Laurent Blanc.
Vous étiez né, Freddy Coulot?
Oui, il y avait Schlavert.
C'était à Lens.
J'écoutais le match RFI en plus, je vous l'avais dit.
Alors, extraordinaire.
Mon premier mondial.
C'était à Lens, je m'en rappelle. C'était un après-midi, il faisait très chaud et ce but avait délivré la France. Et c'est
moi, je l'avais suivi à Asunción avec que des Paraguayens.
Le premier match où on a entendu, après les buts de l'équipe de France, des clameurs dans les rues des villes.
Sauf que ce Paraguay-là, il défend moins bien que l'époque de Schlavert.
Mais oui, c'est plus la même équipe du Paraguay quand même qu'à l'époque, qui avait plus de joueurs de haut niveau, je trouve.
Vous imaginez qu'il joue quand même encore avec Oscar Cardozo en pointe, 36 ans, quand même un vétéran
titulaire qui a des.
Je pense que c'est une équipe qui a effectivement un bloc équipe qui est solide, où chacun se bat les uns pour les autres, mais en termes de talent, ça a quand même diminué.
Santa Cruz et tout ça ne sont plus là.
Faut être honnête, vous avez un bon meneur de jeu qui s'appelle Almiron, qui est intéressant, qui joue du côté de Newcastle. Après, attention à ce genre d'équipe, parce que plus vous mettez du temps à ouvrir la marque, plus elles prennent de la confiance. C'est le piège dans lequel pourrait tomber ce Brésil, qui est pour moi pas non plus un grand Brésil.
C'est peut-être là l'avantage de ce Brésil-là comparé aux deux dernières Copa América où le Brésil était plutôt ultra favori. Avec des individualités très fortes. Là, l'absence de Neymar, moi j'ai vu finalement sur le troisième match, on a l'impression que ça fait du bien, même si on était inquiet sur le premier match, parce qu'il y a un collectif qui monte en puissance, et sur le dernier match, clairement, il y a beaucoup plus d'automatisme que lors des deux premiers matchs.
Alors on a eu envie de demander à un de nos experts de son avis sur cette rencontre. Alors j'imagine qu'il est déjà installé dans son canapé, qu'il lutte contre le sommeil pour regarder ce spectacle. Carlos Bianchi, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Carlos, vous êtes prêt à veiller jusqu'à 3h30 du matin?
Là, on va démarrer à un asado. Un asado, ça veut dire un barbecue. On va démarrer là, à côté du Trocadéro. Pas grave.
D'accord.
On va tenir le coup jusqu'à 2h30 du matin pour voir un très bon match, j'espère.
Oui, Carlos, comment vous le voyez-vous, cette confrontation entre Brésil et Paraguay au sud du Brésil, en territoire brésilien?
Ce sont deux styles de football qui jouent un contre l'autre. Un, il va essayer de jouer au football, son football, que c'est le Brésil, essayer de jouer techniquement, de faire la différence à base de passes, à base de dribbles, à base de changements de rythme. Et l'autre qui va essayer de mettre sa force, comme tu as dit tout à l'heure, la garra. Mmh. Que la garra est quand même très loin des fois.
Exactement.
Mais il y a des fois que quand tu joues contre quelqu'un qui joue mieux que toi au football, à la fin, tu finis pour perdre. Mais ça va être un match très difficile pour le Brésil. Mais je pense quand même qu'il a plus de possibilités, il joue chez eux. Et le Brésil, il y a des joueurs qui, offensivement, ils sont très importants.
Oui, et ce Brésil, en plus, Carlos, on l'a vu, hein, contre le Pérou, quand même, là, on a retrouvé le Brésil et son style. 5-0, beaucoup de buts et aussi beaucoup de spectacles.
Parce que tout le monde, il joue le même langage.
Exactement.
La question, elle est là. Parce qu'on parle de Neymar qui n'est pas là. Mais n'oubliez pas que Neymar, c'est un joueur qui déséquilibre, mais c'est un individualiste. Mmh. Les autres, ils sont tous collectifs. Alors, la différence, elle est là. Firmino, Coutinho, Williams, tout ce que Emerson, et tous ces joueurs-là, ils sont collectifs. Alors, Paris et Brésil, il a pris l'habitude peut-être de faire la différence grâce au collectif, pas l'individualisme.
Eh bien, on verra si le Brésil arrive à se sortir de ce piège. Si le Brésil y arrive et les Argentins qui joueront le Venezuela aussi, ils pourraient se retrouver en demi-finale. Et là, ça sera un autre match dont on reparlera. Merci beaucoup, Carlos Bianchi, d'avoir été avec nous. On vous laisse à votre nuit pleine de viande grillée et de ballons.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.
Merci, Carlos. Merci. En plus, un détail amusant et on aura le temps d'en reparler. Ce Brésil Argentine, s'il avait lieu, eh bien, il se déroulerait dans le fameux stade du Mineirão de Belo Horizonte, le fameux du funeste 7-1.
Ah, oui.
Alors, les Brésiliens auront peut-être envie de se rattraper. Nabil, vous pensez que le Brésil va gagner cette Copa América?
Non.
Faites-moi plaisir.
Pas... Non, il est plutôt Colombie, lui, ça soit.
Je sais pas pourquoi, la dernière fois, c'était... J'ai l'impression que
vous aimez le café. Vous aimez le café.
Voilà, c'est ça. Je suis 100% arabicain.
Il en faut pour veiller jusqu'à 3h du matin, du café.
Non, mais j'ai vu le Chili gagner la précédente. J'ai l'impression que le Brésil et l'Argentine vont passer leur tour pour un petit moment. C'est mon intuition. Je sens la Colombie parce que je l'ai trouvée extrêmement séduisante face à l'Argentine. Et j'aime cette équipe, tout simplement.
La Colombie qui devra éliminer le Chili, tenant du titre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présent dans Radio Foot International ce soir. À la réalisation, il y avait Laurent Salerno. Pour m'aider à préparer l'émission, il y avait David Finzel. Et pour ce qui était du Facebook Live, nous avions Souhel Khedir et Cyril Etienne Di, notre ami cinéaste.
Maurice Pialat.
Maurice Pialat. À demain, merci. Tout à l'heure.